Chapitre 3. Les fourches codines. L'exposition des Beaux-Arts venait de finir, l'exposition qui tient en suspens pendant un an au moins la pensée, la vie, l'avenir d'un artiste, et cette fois, elle n'avait pas été favorable à Lucien. Le comité d'administration avait refusé l'un de ses tableaux parce qu'il ne représentait pas un sujet assez chaste, prétendait-il, les mères conduisant leurs filles en salon. Ces deux autres tableaux avaient été mal placés. Un jour faux noyait leur qualité. Les critiques, qui font dans chaque journal le compte-rendu de l'exposition, avaient prononcé le mot fatal « décadence ». Quelques réclamations consciencieuses s'étaient perdues dans le tollé général. Bref, l'éreintement avait été complet et la foule avait passé devant les toiles de Lucien, soit en ne les regardant pas, soit en répétant la phrase des journaux. Décidément, Lucien Adjer était en décadence. Il est si commode de trouver une opinion toute faite. En politique, en art, en morale, le gros du public n'a d'autre opinion que celle du journal auquel il est abonné et dont il digère les phrases, plus ou moins substantielles, avec son beefsteak ou sa côtelette. Un commerçant enrichi, posant en mécène, avait retiré au jeune peintre une commande importante, ne voulant avoir dans sa galerie, disait-il, que des œuvres de maître. Une rupture avait eu lieu entre Lucien et Madame Bertel, un peu avant son insuccès au salon. Mais cette rupture n'avait été qu'un incident, pour ainsi dire prévu, et les souffrances de l'artiste avaient effacé celles de l'amant. Il est, pour les artistes, des heures accablantes, heures de ténèbres, où leur pensée n'a plus d'horizon, où leurs muscles n'ont plus de ressort, où l'air manque à leur esprit, à leur cœur, et dont le bon public n'a pas la moindre doutance. Combien est-il de gens qui n'ont l'épiderme sensible que pour des pertes d'argent, et qui ne peuvent comprendre, et les découragements morbides, et les rayonnements qu'une heure de succès verse sur une vie entière. Il était midi à peu près. Une lumière éclatante inondait l'atelier de Lucien, colorait ses tapisseries, rajeunissait ses vieux meubles, et pourtant un morne accablement pesait sur toute chose, car notre moi déteint plus que nous ne le croyons sur tout ce qui nous entoure. Un grand tableau, revenu le matin de l'exposition, était posé sur un chevalet. Lucien, assis, le contemplait. Puis, les dents serrées, le visage pâle, il chiffonnait nerveusement son journal. « Encore ! » s'écriait-il. « Ils ne se lasseront donc pas d'annoncer à tous ma décadence ? Oh, qu'on ne me parle pas de ces gens qui n'ont jamais tenu un pinceau de leur vie et qui veulent, avec une plume, faire de la peinture !» Puis il se remit à regarder sa toile. Pendant qu'il était abîmé dans cette douloureuse contemplation et que ses fibres détendues laissaient flotter son âme dans cette mer aux flots lourds dont parle Dante, la clé tourna dans la serrure de la porte. Lucien releva la tête. C'était Marcel qui entrait. En voyant le visage pâli de son ami, il fit un mouvement comme pour attirer vers ses lèvres la tête du peintre. Il s'arrêta et, lui prenant les mains, il lui dit doucement « Eh bien, mon pauvre ami, nous sommes donc toujours tristes ?»« Belle question, je devrais chanter, n'est-ce pas ? Chanter, sans doute un miserere ou un de profundis. » Marcel ne répondit rien et le regarda doucement. Lucien soupirait. « De grâce, reprit Marcel, sois calme, sois fort. Viens-tu me sermonner, comme tu le fais sans cesse ? Je te préviens que je n'ai pas l'esprit assez libre pour profiter de ton discours. Je t'en prie, comprends-moi mieux. Tiens, laisse-moi. » Marcel s'assit en silence. Lucien regardait sa toile. Marcel regardait Lucien et une larme voilait son regard. « Tu es encore là ?» dit Lucien au bout d'un quart d'heure en relevant la tête. « Est-ce lorsque nos amis souffrent que nous devons les abandonner, quoi qu'ils disent ?»« Que veux-tu ? » reprit Lucien en se radoucissant. « Je suis en ce moment un être antisociable et mieux vaut me laisser seul, dans un coin, lécher ma blessure comme un ours ou un tigre. » Marcel sourit d'un sourire pâle et doux. « Ils m'ont tué, » reprit Lucien avec accablement. « Et j'allais vivre, je sentais cela. »« Eh non, mordieu, tu n'allais pas vivre si tu te trouves anéanti par quelques mordantes paroles jetées au hasard. L'opinion de quelques critiques n'est pas l'opinion du monde entier. Et cette commande qu'on m'a retirée ? Qu'importe, tu en auras d'autres. Un homme de ton talent doit être assez fort pour venger une défaite par un succès. Mais on a beau se roidir contre l'opinion du public, cette opinion qu'on trouve absurde, elle pénètre peu à peu en nous comme une brume de novembre. Elle glace l'inspiration, elle rend l'esprit indécis, et l'on finit par douter de soi, par arriver à la décadence prédite. Tiens, qu'on ne me parle pas de tous ces bourgeois qui se posent en protecteurs des arts, tranchent du connaisseur et apportent dans leurs appréciations leurs idées étroites et mesquines. Ah, qu'il ferait bien mieux donner encore leur serge, de mesurer les pierres de leur bâtisse ou de faire de la prose sans le savoir, comme M. Jourdain. À quelle époque bâtarde vivons-nous, grand Dieu ? Crois-tu vraiment, reprit Marcel, que les seigneurs d'autrefois ne faisaient pas saigner leur protection sur le front des artistes de leur temps ? Mais ces grands artistes, qui ont incrusté leur nom dans leur siècle, nous ont eu leurs humiliations, nous ont caché leurs défaillances. Ils se sont relevés de leur chute par un travail âpre, incessant. Sois fort comme eux, je t'en conjure, ami. Eh bien, j'essaierai, dit Lucien en allant serrer la main de Marcel. Marcel tint longtemps la main de son ami dans les siennes, et son regard aux ondes recueillies l'envahit de ces généreux effluves de l'âme qui feraient presque désirer de souffrir pour être consolé de la sorte. Un long soupir souleva sa poitrine, une larme frangea ses cils, et les mystères de sa pensée restèrent enfouis dans son cœur. « Il est des amitiés qui valent bien des amours, » reprit Lucien attendri. « Jeanne m'a laissé, et toi tu restes, essuyant mes boutades et trouvant toujours une bonne parole à me dire. » Marcel gardait le silence. « Ah, que j'ai bien fait, » continua Lucien, « de ne pas mettre tout mon cœur dans cette liaison. Où en serais-je maintenant ?»« Ami, » reprit Marcel en hésitant un peu, « laisse-moi te dire que si en toi l'homme avait aimé, l'artiste n'aurait peut-être pas faibli. Allons donc. Si tu savais comme un homme serait fort s'il s'appuyait sur un cœur de femme, mais un cœur qu'il aima vraiment. Bon. Te voilà chevauchant sur ton sempiternel dada comme Don Quichotte sur Rocinante. Je te répète qu'à ce moment, je ne suis point d'humeur à battre la campagne avec toi. Oh, je n'ai donc plus rien là, dit-il avec accablement en étreignant son front de ses deux mains. Lucien, reprit Marcel. Eh bien, quoi encore? Si tu m'en croyais, nous quitterions Paris pour un mois. Paris est malsain pour ceux qui souffrent par le cœur ou par la pensée. Ma foi, c'est une idée. Mais où irions-nous? Partout où l'on va pour s'isoler, on se heurte à des figures de connaissances qui vous disent « Tiens, vous voilà, quelle chance de vous rencontrer !» Et l'on emporte toujours avec soi, comme excédent de bagages, les misères de Paris. Parce que, sous prétexte de chercher la solitude, on va où tout le monde va, à Trouville, à Vichy, que sais-je encore. On se déplace, voilà tout. Heureux mortel, tu connaîtrais un lieu désert qui n'est hanté ni par les riches flâneurs, ni par les avocats en vacances, ni par les artistes en liesse, ni par les bourgeois qui, voulant à tout prix admirer la belle nature, se pâment devant une grenouillère ou un pommier. Mais oui, c'est alors une savane américaine. Non, ce n'est qu'une steppe française à 60 lieues de Paris. Partons bien vite alors. Après, toutefois, que j'aurai obtenu mon congé. Un pauvre petit employé n'est pas un aigle au libre vol comme l'artiste. C'est un poulet de basse-cour à l'aile piteusement coupée. Lucien se prit à rire. Tu ris, c'est bon signe. Hélas non, soupira Lucien en revenant à ses tristes pensées. Marcel reprit aussitôt « En attendant notre fugue vers les solitudes de ce vieux monde, allons nous promener à Boulogne, à Saint-Cloud, n'importe où. La nature a toujours des beautés pour ceux qui l'aiment et la comprennent. Tu as raison, cela vaut encore mieux que de rester ici. L'atmosphère d'un atelier où l'on constate une défaite donne la fièvre des marépontins. » Les deux jeunes gens sortirent ensemble. Le regard de Marcel était joyeux, son cœur se gonflait de douces larmes. Il se sentait utile à son ami. L'inutilité d'une affection vraie décourage les natures généreuses. Se dévouer fait tant de bien.